Tire d'aile, une rubrique consacrée à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mahler en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et cette émission, l'Alpha 10-13. Tous les mois, on ouvre grand nos antennes à celles et ceux qui protègent et défendent le vivant parce que l'état de la vie faune est révélateur de l'état de notre planète. Dans cette première chronique de la deuxième saison, Frédéric Mahler nous parle du silence ornithologique de l'été, de cette période essentielle au repos des oiseaux avant leur migration. Alors écoutons tout de suite « À tire d'aile », saison 2, épisode 1, Le grand silence de l'été, une chronique de Frédéric Mahler de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Bonjour à tous. Pour reprendre cette nouvelle saison, j'ai décidé de rester un peu en été. Cet été, vous avez peut-être remarqué qu'on n'entendait plus beaucoup les oiseaux. Certes, les canicules et la sécheresse ne les ont pas poussés à une activité débordante, mais ce ne sont pas les causes principales de ce grand silence. Nous allons voir pourquoi. D'abord, même si les calendriers varient selon les espèces, la plupart viennent de terminer leur reproduction. Les jeunes sont envolés et les adultes peuvent enfin souffler. Tous les parents vous le diront, on adore ses enfants, mais quand ils s'en vont, ça fait du bien. Mais revenons aux oiseaux. En fait, cette période de repos apparent cache une autre activité. Les adultes se retrouvent en été avec un plumage très abîmé à la suite de tous les efforts qu'ils ont déployés pour assurer leur descendance, et il est nécessaire de le remplacer pour être capable de passer l'hiver, a fortiori pour ceux qui partent en migration. Pour cela, ils vont perdre toutes les plumes de leur corps, les petites plumes dites de contour, et les grandes plumes qui leur permettent de voler, en particulier les rémiges. Pour cela, les vieilles plumes tombent progressivement, au fur et à mesure que les nouvelles apparaissent. Pour les plumes du vol, elles tombent de manière symétrique, pour éviter de déséquilibrer l'oiseau en l'air. Tout cela représente un travail important qui nécessite beaucoup d'énergie pour un oiseau déjà affaibli. C'est pourquoi ils deviennent si discrets à cette période, surtout qu'ils sont plus vulnérables à la prédation. Certains oiseaux font une mue plus brutale. Si vous connaissez les jolies couleurs des canards colverts mâles, vous devez avoir remarqué qu'en été, elles disparaissent et qu'il est difficile de distinguer le mâle et la femelle. On parle de plumage d'éclipse. Les plumes aux couleurs vives du printemps ont été remplacées par d'autres plus ternes qui leur permettent de passer inaperçues. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les plumes du vol, appelées rémiges, tombent tout en même temps, ce qui rend les canards incapables de voler pendant 2 à 3 semaines, d'où l'intérêt d'avoir un plumage discret. C'est aussi le cas chez les cygnes, qui restent blancs et donc bien visibles, mais qui se rassemblent en groupe, pouvant dépasser la centaine d'individus, ce qui doit au moins les rassurer. Les canards retrouveront leur beau plumage en automne grâce à une autre mue, limitée aux plumes du corps cette fois-ci. L'été est la saison où il y a le plus d'oiseaux dans la nature grâce au renfort des nombreux jeunes qui viennent de s'envoler. C'est une période bien difficile pour eux, car ils doivent s'adapter rapidement à leur nouvelle vie et parce que de nombreux prédateurs, dont nos chats domestiques, ont compris qu'ils sont inexpérimentés et donc plus faciles à capturer que leurs parents. La mortalité est donc importante, ce qui, en général, est compensé par le grand nombre de jeunes à l'envol. Mais une fois envolés, les parents ne les retiennent pas. En général, même, ils les chassent de leur territoire et les jeunes doivent partir à l'aventure. Cela s'appelle la dispersion juvénile. Selon les espèces, elle peut jouer sur quelques hectomètres ou quelques dizaines de kilomètres. Chez les mésanges bleus et charbonnières, la grande majorité des jeunes s'éloignent de moins d'un kilomètre de leur lieu de naissance, les femelles s'éloignant en général plus que les mâles. Alors que les jeunes vautours fauves de deuxième année font parfois des périples qui dépassent le millier de kilomètres, ce qui en amène tous les ans quelques-uns à traverser le nord de la France, voire de l'Europe. Certains ont même atteint le Danemark. Cette année encore, un petit groupe a été observé ce mois de juin dans les Yvelines. La dernière raison qui explique la discrétion des oiseaux en été, c'est qu'ils doivent faire leurs réserves pour la migration. À cette période, la physiologie des oiseaux migrateurs change et ils sont capables de stocker une quantité importante de graisse dans leur foie, fonction que l'homme utilise pour faire le foie gras, et sous la peau de leur poitrine. Certains oiseaux doublent quasiment de poids avant de se lancer dans le grand voyage. C'est pourquoi vous pouvez voir des oiseaux profiter des petits fruits qu'ils trouvent dans la nature ou dans les jardins. Cornouillers, sureaux, aubépines, mûres, etc. Un certain nombre de migrations commencent même en plein été. Les premiers à partir sont les martinets, dont la plupart disparaissent avant la fin juillet. Et les cigognes, dont je vais reparler juste après, commencent à partir de début août. Le grand silence estival commence à s'animer en septembre, quand certains oiseaux se remettent à chanter, comme les rouges-gorges et les troglodytes, histoire de nous remonter le moral avant le retour de l'hiver.
Et comme dans tous les épisodes de la saison précédente, nous clôturons ce « À tire-d'aile » par l'espèce du mois. Frédéric Mahler nous parle ce mois-ci d'un oiseau qui a bien failli disparaître de France, un oiseau qui, dit-on, dépose les nouveau-nés sur le seuil de votre porte.
En cette année de cinquantenaire des lois de protection de la nature, j'ai voulu prendre comme symbole cet oiseau que tout le monde connaît et qui pourtant a failli disparaître de France. En 1974, il ne restait que 9 couples de cigognes, dont 8 en Alsace. Il a fallu les efforts inlassables d'un pionnier, Alfred Schirrer, relayé ensuite par des dizaines de bénévoles, pour que les populations, d'abord alsaciennes et lorraines, puis sur l'ensemble du territoire, se reconstituent et atteignent cette année l'effectif inimaginable à l'époque de 6000 couples répartis dans toute la France. La dernière région à accueillir l'espèce a été l'Île-de-France, où un couple s'est installé en Seine-et-Marne en 2024. Tout le monde connaît évidemment ce grand échassier noir et blanc, au bec et aux pattes rouges vifs, qui fait son nid sur des cheminées, mais pas que, et qui est considéré dans tous les pays où il niche comme porte-bonheur, voire un porte-bébé. Pour parler de la vie de cet oiseau, nous allons débuter par la construction du nid. Hors contexte urbain, les cigognes construisent leur nid sur des arbres et ne refusent pas la compagnie. On peut en trouver plusieurs sur le même arbre. En ville, les cheminées sont souvent utilisées, et à la campagne, les pylônes électriques sont de plus en plus occupés, aux grandes dames des compagnies électriques qui y voient un risque de court-circuit à l'origine de certaines pannes. En fait, elles ne construisent pas un nid chaque année, se contentant en général d'ajouter quelques branches à celui qu'elles occupaient l'année précédente. Ce qui, au bout de 20 ans, peut aboutir à des nids de taille impressionnante, jusqu'à 2 mètres de haut pour plusieurs centaines de kilos. En général, 4 œufs y sont pondus et les jeunes sont élevés entre avril et juin. Quand ils sont grands, ils ressemblent beaucoup à leurs parents, à part le bec qui est noir au lieu d'être rouge. Ils sont nourris régulièrement à partir d'une grande variété d'animaux, gros insectes, grenouilles, vers de terre, petits rongeurs, etc. L'espèce semble aussi bien profiter de l'implantation des écrevisses américaines, principalement dans l'ouest de la France. Elle ne dédaigne pas non plus la fréquentation des décharges à ciel ouvert. Le départ en migration se passe en général à partir du début août. Pas la peine de s'inquiéter ni d'invoquer un hiver précoce si vous voyez un groupe de cigognes en migration en plein été. C'est la date normale. Où vont-elles ? Traditionnellement, elles passent l'hiver au sud du Sahara pour profiter des conséquences de la saison des pluies. Comme elles se déplacent le plus souvent en planant, elles ont besoin d'ascendance d'air chaud et ne peuvent donc pas traverser de grandes zones marines. C'est pourquoi les cigognes européennes se concentrent au détroit de Gibraltar et sur le Bosphore en Turquie pour contourner la Méditerranée par l'ouest et par l'est. Certaines parviennent néanmoins à passer de la Sicile à la Tunisie sans un trajet de 200 km sans pouvoir planer. La nouveauté depuis une cinquantaine d'années, c'est le nombre important de cigognes qui n'émigrent pas et restent sur place ou qui vont un peu plus au sud, mais sans traverser la Méditerranée. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Tout le monde pense au réchauffement climatique, et c'est évidemment une raison, mais il faut rappeler que pour augmenter le taux de survie des cigognes relâchées, on les a longtemps empêchés de migrer en leur coupant les rémiges la première année, ce qui fait disparaître en général l'instinct migratoire. Il y a surtout une autre raison, la présence de deux sources de nourriture nouvelles, les décharges à ciel ouvert et les écrevisses, dont je parlais et qui permettent à beaucoup de cigognes de passer l'hiver sans trop de problèmes de nourriture. Leur retour, lui aussi, est précoce. Les premières sont classiquement revenues sur leur nid dès la mi-février, le mâle arrivant le premier pour lui permettre de réaffirmer la possession de son nid habituel. L'arrivée de la femelle, normalement la même que l'année précédente, et salué par des mouvements de parade caractéristiques. Coup rejeté en arrière en claquant du bec. On dit qu'elle craquette. En général, les deux partenaires effectuent ce rituel ensemble et de manière synchronisée et le renouvellent presque à chaque retour de l'un ou l'autre au nid pendant toute la saison. Les accouplements sont assez spectaculaires car ils nécessitent un sens certain de l'équilibre. Le mâle devant s'accroupir sur le dos de la femelle qui est restée debout. L'histoire de cette espèce résume bien à elle seule les dangers que courent certaines espèces, mais aussi l'efficacité des mesures que les protecteurs de la nature savent mettre en œuvre quand on leur en donne les moyens. C'est donc avant tout une question de volonté politique. À la prochaine, et d'ici là, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts.